C'est maintenant le moment de cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. On parlera aujourd'hui de la notion de conjoint de fait, une notion dont tout le monde a l'habitude d'entendre parler. Là, c'est assez fréquent. Bien, même les statistiques le disent. Au Québec, il y a un nombre croissant de couples qui vivent en union de fait. En 1981, c'était 8,2% des couples. En 2016, 39,9%. Puis depuis là, bien, j'imagine que ça peut avoir grimpé un petit peu. Au Québec, on est les champions. Il y a 31% des personnes entre 25 et 64 ans qui vivent en union libre. La moyenne canadienne, c'est 15%. C'est ce que nous rapporte Statistique Canada. Donc, on veut bien aujourd'hui comprendre et connaître les règles juridiques qui s'appliquent à ce régime-là de vie commune. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec Maître Geneviève Gratton, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Geneviève, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Donc, Geneviève, ce que j'en comprends, est-ce que les Québécois savent vraiment ce que c'est être conjoint de fait? On est plusieurs, là, les chiffres le prouvent, mais est-ce qu'on comprend bien ce que c'est?
Non.
Okay.
Malgré la popularité grandissante du concept, je crois que malheureusement, il existe encore beaucoup d'incompréhension sur le régime ou en fait, je devrais dire plutôt l'absence de régime juridique qui entoure les conjoints de fait au Québec. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que faire vie commune avec une personne pendant un certain nombre d'années ou de fonder une famille donne les mêmes droits que ceux accordés à un couple marié, mais c'est pas le cas. En fait, simple rappel pour les auditeurs et pour qu'ils me suivent bien, l'union de fait consiste pour un couple à faire vie commune sans s'y être engagé en public, donc par exemple par le mariage.
Okay.
Ça lie pas les conjoints, ce qui signifie qu'ils ont aucun droit ni obligation l'un envers l'autre. En effet, selon la loi, les conjoints de fait sont considérés comme deux célibataires, peu importe la durée de leur union. Je vais avoir une image vraiment très dure, mais pour être clair au sens de la loi, que vous habitiez ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 50 ans, vous êtes des colocataires.
OK.
Je sais que ça fait mal à entendre pour plusieurs de vos auditeurs. C'est assez violent, mais ça n'en reste pas moins la réalité. Il y a certains droits et doivent remplir certaines obligations, notamment envers leurs enfants, mais c'est assez limité.
Bon, si on regarde vraiment, là, on comprend que c'est pas la même chose qu'être marié, mais si on regarde plus précisément la différence, justement, entre les conjoints de fait et les couples mariés.
Oui, comme je viens de le mentionner, au Québec, le droit civil s'applique. Les conjoints de fait ne sont tout simplement pas reconnus légalement. Seuls les couples mariés existent, sauf pour quelques lois particulières telles que la loi sur le régime de rente du Québec, la loi sur l'assurance-emploi et la loi sur l'impôt, entre autres.
Okay.
Les lois particulières contribuent à la confusion de la population puisque lorsque vous remplissez votre formulaire d'impôt, Sébastien, que ce soit pour le provincial ou le fédéral, vous êtes reconnu si vous êtes conjoint de fait.
Oui.
Vous allez voir la case et vous allez pouvoir la cocher.
Mm-hmm.
Donc, la population, à moins d'avoir des connaissances juridiques, elle ne fera pas la différence si elle remplit dans son formulaire d'impôt que les conjoints de fait, elle va penser que c'est reconnu par toutes les institutions provinciales ou fédérales.
Oui, parce qu'on le fait chaque année, puis ça se passe bien. Même chose souvent pour les assurances collectives au travail, c'est reconnu, puis tout ça. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. C'est ce que je comprends.
C'est ça. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les couples mariés bénéficient de certaines protections en cas de séparation ou de décès dont ne peuvent tout simplement pas bénéficier les conjoints de fait.
Mm-hmm.
J'aimerais aussi mentionner que du fait de notre proximité avec l'Ontario, nous avons une autre raison d'être confus puisqu'en Ontario, c'est la commune-là qui s'applique. Puis les conjoints vivant ensemble et ou ayant des enfants vont avoir des droits et des devoirs entre eux de façon similaire à des conjoints mariés. Donc, selon le régime légal de l'Ontario, ce qui n'est pas du tout le cas au Québec.
Bon, allons-y plus concrètement peut-être dans les différences là, entre les deux types d'union.
Oui, tout à fait. Il y a deux principales distinctions. D'abord, en ce qui concerne les biens, si un couple marié se sépare, il aura un partage du patrimoine familial qui est constitué, entre autres, de la résidence familiale ou des résidences secondaires également, donc le chalet, des meubles et des automobiles utilisés par la famille, sans oublier les REER et fonds de pension accumulés pendant le mariage.
Okay.
Pour le reste des biens, c'est le régime légal de la société d'acquêt ou la séparation de biens qui s'appliquera, mais je ne veux pas mélanger les auditeurs, donc je vais m'arrêter là pour les fins de la chronique.
Allons-y simplement, oui.
Oui, c'est ça. Alors que la valeur totale sera partagée entre les conjoints mariés. Donc, la valeur au moment de la séparation, on va calculer à partir du moment du mariage jusqu'à la fin de l'union.
Mm-hmm.
Puis, on va partager la valeur. Puis, ça, peu importe qui était le propriétaire des biens, parce qu'on se base vraiment sur la valeur totale accumulée. Dans le cas des conjoints de fait, il n'y aura aucun partage à la séparation. Chaque personne repartira donc avec les biens dont elle est le propriétaire, sauf pour les biens qui ont été acquis ensemble. Là. Par exemple, si la résidence familiale a été achetée ensemble ou le chalet et que les deux noms apparaissent sur les titres de propriété. Ce n'est pas suffisant de dire que vous avez payé la moitié de l'hypothèque pendant toute la durée de l'union.
OK, oui, oui, c'est ça. Il faut bien le comprendre. C'est donc une différence majeure. C'est quoi l'autre distinction là, dont on parlait tantôt?
Oui, il y a également au décès. Dans le cas d'une union de fait, le conjoint survivant n'est pas automatiquement considéré comme un héritier. En fait, il ne l'est pas du tout.
Mm-hmm.
Seul un testament en faveur du conjoint survivant permettra la transmission des biens. Sinon, c'est le régime légal qui s'applique. Par exemple, les enfants vont hériter et en l'absence d'enfants, les parents du défunt, du conjoint défunt, sinon les frères et sœurs, ainsi de suite. Jamais le conjoint non marié n'est mentionné dans la dévolution légale là, dans le Code civil du Québec.
Okay.
C'est très différent de la situation qui prévaut entre des personnes mariées qui, elles, hériteront d'une part de la succession de leur conjoint en l'absence de testament, même si ce n'est pas l'entièreté, là, s'il y a des enfants. Donc, c'est vraiment important de faire un testament lorsqu'on vit en union de fait.
Puis les conjoints de fait n'ont pas droit à une pension alimentaire de leur ex-conjoint après une séparation, est-ce que c'est ça?
Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire très médiatisée de Lola contre Eric en 2013.
Oui.
Ben, en fait, ça s'est étalé sur plusieurs années. Donc, je vais rappeler l'histoire très, très brièvement. Lola est la conjointe d'Eric, c'est chef d'affaires pendant 7 ans. Ils ont 3 enfants et au moment de la séparation, Lola reçoit une pension alimentaire pour les enfants et l'accès à la résidence familiale. L'accès à la résidence familiale, normalement, c'est pas nécessairement le cas, là, donc je ne veux pas mélanger vos auditeurs, mais dans le cas de Lola, c'est ce qu'elle reçoit. Lola poursuit Eric puisqu'elle considère discriminatoire de ne pas avoir droit à une pension pour elle-même, ayant arrêté toute activité pour élever les enfants, entre autres, contrairement aux gens mariés. Finalement, la Cour suprême va statuer que Lola n'a pas droit à une pension alimentaire pour elle-même. Je le répète, peu importe le nombre d'années que vous avez passé ensemble, que l'un des conjoints soit resté à la maison pour élever les enfants, par exemple, ou si l'un des conjoints a accepté de travailler à temps partiel pendant que l'autre conjoint pouvait continuer à travailler à temps plein et à accumuler de l'ancienneté et un fonds de pension, absolument rien ne sera séparé. Aucune compensation ne sera versée. Dans l'exemple que je viens de vous donner, les personnes mariées, elles, auraient droit à une telle pension pour leur permettre de retrouver un emploi, retourner aux études, rétablir l'équilibre, dans le fond, entre les parties, puis surtout tenir compte que les conjoints ont pris des décisions pouvant défavoriser un des deux parents pour bénéficier à la famille.
Puis là, est-ce que l'union de fait a un impact sur le droit des enfants?
Non, c'est important de le mentionner. Vous avez raison, Sébastien. Tous les enfants sont égaux aux yeux de la loi. Donc, qu'ils soient nés d'une union de fait ou d'un mariage, les questions de la garde et de la pension alimentaire pour enfants ont donc aucun lien avec le statut civil du couple, donc qu'ils soient mariés ou non mariés. Par conséquent, suite à une rupture, un des ex-conjoints pourrait avoir à verser une pension alimentaire pour enfants à l'autre parent. Mais c'est important de rappeler que cette pension-là est pour les enfants, afin qu'ils se sentent pas trop la différence quand ils sont chez un parent ou l'autre parent en termes de soins, donc la nourriture, l'habillement, etc. C'est calculé en fonction des salaires des parents au moment de la séparation et du temps de garde, et il peut être révisé à n'importe quel moment si le salaire ou le temps de garde change. De plus, toutes décisions relatives à la garde et aux droits d'accès devront être prises dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Là, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui vivent en union de fait, est-ce qu'il y a des façons un peu de contourner ce qu'on a mentionné, ces règles-là, pour se protéger en cas de rupture, sans se marier nécessairement, parce que peut-être que ce n'est pas un désir de se marier au sens de la loi et tout ça, mais est-ce qu'il y a des façons là, de se protéger?
Oui. Vous sentez mon hésitation.
C'est pas un vrai oui, mais il y a des possibilités, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est ça. Donc, on peut rédiger un contrat de vie commune. Le contrat permet au couple de définir leurs droits et obligations durant la vie commune, de prévoir un partage de leurs biens dans l'éventualité d'une séparation. Il peut être préparé par les conjoints eux-mêmes, mais je vous dirais qu'un professionnel comme un notaire ou un avocat, c'est important pour s'assurer de rien oublier et que le contenu est conforme à la loi.
Okay.
Pour les couples qui ne désirent pas convenir d'un contrat de vie commune ou une autre forme de protection, pourrait consister à s'assurer de faire tous les gros achats en commun, comme les résidences, maisons, chalets, donc que les deux noms apparaissent sur les titres de propriété. Si un seul des conjoints en est propriétaire, l'autre n'a aucun droit à faire valoir à cet égard lors de la rupture. La copropriété donne à chacun des conjoints une voix dans les décisions et une part dans les profits suite à la vente du bien. Il y a un autre exemple d'ajustement qui pourrait se faire, c'est un versement mensuel, par exemple, au REER du conjoint qui accepterait de travailler, de faire un moins gros salaire ou de travailler à temps partiel pour être disponible auprès de la famille ou des enfants. Mm-hmm. Donc, ça pourrait être une avenue envisagée. Puis, souvent, lorsque je rédigeais des contrats de vie commune, c'est une clause qu'on ajoutait. Donc, mais ça reste vraiment imparfait parce que si c'est assez facile de savoir qui est propriétaire de la maison, mais c'est moins évident pour la plupart des autres biens. Mm-hmm. On peut parier sur la bonne foi des couples pour se rappeler qui a payé les meubles, mais on peut aussi penser que des fois, la mémoire, c'est une faculté qui oublie.
Puis une rupture n'arrive pas toujours avec de bonnes facultés de mémoire aussi. Des fois, on tire un peu la couverte de notre côté, là.
Oui, vous m'enlevez les mots de la bouche. De plus, faut considérer que pour les biens comme les voitures, il y a un seul propriétaire sur les immatriculations. Mm-hmm. Votre conjoint aurait approuvé judiciairement qu'il a aussi contribué, par exemple. Il faut aussi mentionner que dans l'état actuel du droit, le contrat de vie commune n'est pas opposable aux tiers. Les tiers, c'est les autres personnes que le couple, donc l'institution financière, le fonds de pension, par exemple, si on a inclus une clause concernant le partage du fonds de pension à la séparation, etc. Donc, il est enregistré nulle part, puis il n'est pas opposable. Mm-hmm. Les couples mariés n'ont pas approuvé leur statut marital dès qu'il fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'état civil. Puis là, je veux rassurer tout le monde, partez pas en peur, ceux qui sont déjà mariés, c'est le célébrant qui fait la oui. déclaration au directeur de l'état civil, là. Donc vous n'avez pas à le faire.
En cas de rupture, qu'est-ce qui arrive au conjoint qui est désavantagé économiquement si on n'a pas conclu ce fameux contrat de vie commune dont on parlait tantôt?
C'est vraiment un recours exceptionnel. Mais dans certaines circonstances, il peut y avoir un recours en enrichissement injustifié qui pourrait être présenté au tribunal. Mais c'est vraiment dans certains cas précis. Là, je vais vous donner un exemple de jurisprudence où il y a une femme qui a quitté son emploi pour participer activement à l'entreprise de son conjoint pendant 8 ans, qui a vu les actifs de la compagnie augmenter $2 million pendant ce temps. Dans cette affaire-là, qui est un cas réel, la dame en question a obtenu une compensation de $85 000. Mais il est important de préciser que le fardeau à démontrer pour gagner un tel recours est vraiment difficile à rencontrer. Mm-hmm. Il s'agit donc d'un recours, comme je mentionnais, vraiment exceptionnel. Puis, on va s'entendre à la lumière de la froide raison. On voit bien qu'il reste un déséquilibre visible, même si la conjointe a reçu une compensation.
Ouais, faut pas se fier là-dessus, là. C'est ce que je comprends, là.
C'est ça. Elle avait travaillé pendant toutes ces années-là sans salaire pour mm-hmm. le conjoint et contribué à l'augmentation de la valeur de l'entreprise qui chiffrait à des millions et elle a reçu $85 000. Donc, c'est vraiment pas... une reconnaissance, c'est comme un pansement.
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Puis là, je peux avoir l'air de vendre le mariage, mais tant que la réforme du droit de la famille ne sera pas faite, le mariage reste le meilleur moyen pour protéger les conjoints, particulièrement lorsqu'il y a un désir de créer une famille pouvant ainsi accentuer des inégalités entre les conjoints, à moins d'avoir encore là un très, très bon contrat de vie commune. Le droit de la famille avec lequel on vit au Québec, là, il date de 1980. Ça fait 40 ans de ça. Donc, vous conviendrez, Sébastien, qu'en 40 ans, les familles ont pas mal changé.
Mm-hmm, oui.
La réforme, là, elle est attendue depuis le dépôt du rapport Roy en 2016. Donc, c'est vraiment là quelque chose qui devrait pouvoir se faire dans les prochaines années. Là. Du moins, on le souhaite ardemment.
Si nos auditeurs ont des questions sur ce sujet-là ou d'autres sujets, on peut communiquer avec vous au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Geneviève.
Oui, ils peuvent nous joindre au téléphone au 819-646-000 pour obtenir davantage d'informations liées à leurs droits, à leur situation. Je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus. Puis, on offre justement une séance d'information sur les conjoints de fait le 25 janvier à 9h30 en virtuel pour ceux qui voudraient en apprendre davantage. Donc, vous pouvez écrire à outaouais@cjpqc.ca ou aller sur notre page Facebook ou Instagram pour s'inscrire.
On mettra les liens sur notre site Internet également. Geneviève Graton, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Merci beaucoup, puis on se reparle dans 2 semaines.
À dans 2 semaines. Merci, Sébastien.